Les députés nationaux, membres de la majorité présidentielle, ont déposé lundi dernier leur pétition à la Cour constitutionnelle pour lui demander d'interpréter l'article 70 de la Constitution. Évaluation de l'action du gouvernement, le Premier ministre a affirmé mercredi dernier devant les députés nationaux que des progrès considérables ont été accomplis durant les quatre dernières années dans plusieurs domaines de toute l'étendue du pays. Tels sont les thèmes de ce soir dans la tribune de la presse. Nous avons autour de cette table Jean-Pierre Kayembe, il est journaliste à la radio-télévision du groupe L'Avenir RTGA Sigle. Bonsoir Jean-Pierre Kayembe.
Bonsoir Kimanté, bonsoir à tous.
Daniel Safou, il est fondateur du bi-hebdomadaire Point Saillant, journal d'investigation et d'enquête paraissant à Kinshasa. Bonsoir Daniel Safou.
Bonsoir.
Et Albert Komba, journaliste à Numérica Télévision, une radio-télévision qui émet à Kinshasa. Bonsoir Albert Komba.
Bonsoir.
Bienvenue à tous dans cette émission. Beaucoup de sujets ont défrayé la chronique cette semaine. On écoute cette revue de presse que nous propose Alain Hurong.
Bonsoir. Commençons cette revue de presse par la saisine de la Cour constitutionnelle. Plus de 286 députés de l'AMP saisissent la Cour constitutionnelle, titre L'Avenir. Le journal précise qu'on compte 60 députés de l'opposition parmi les signataires de la pétition déposée lundi dernier à la Cour constitutionnelle. Selon Forum des As, la démarche de ces élus nationaux vise à mettre fin à la polémique entretenue par la fin du mandat du président de la République. Nouvelle bataille de l'AMP pour le glissement, titre La tempête des tropiques, qui conclut ainsi que la tenue du dialogue, tant que claironné par la famille présidentielle, devient hypothétique. Sous le titre Mandat présidentiel, l'article 70 prisonnier de 73, 75 et 76, le phare accorde la parole à d'autres voix qui s'élèvent pour soutenir que cette disposition constitutionnelle ne peut être interprétée de manière isolée. Sa bonne compréhension exige sa corrélation avec les articles 73, 75 et 76, ajoute le journal. Parlons du passage du Premier ministre à l'Assemblée nationale, mercredi dernier. Matata Pogno sur des charbons ardents note le palmarès qui fait observer que c'est pour la première fois que depuis son investiture, le Premier ministre Matata Pogno est contraint de se présenter devant l'Assemblée nationale, un signe de temps qui ne trompe pas. Pour l'avenir, en mettant à l'ordre du jour la question orale contre le Premier ministre, Omain Minaku redynamise le contrôle parlementaire. Il n'y a rien à craindre, la question est de coutume, d'autant plus que le Premier ministre a toujours présenté le budget, mais aussi le rapport complet de reddition des comptes, toujours approuvé par les élus du peuple. Sans doute, Matata sortira indemne du piège qui lui a été tendu à l'Assemblée nationale, écrit le potentiel pour qui le Premier ministre a réussi son grand oral. Parmi les autres sujets qui ont fait l'actualité cette semaine, il y a notamment l'intrusion des troupes rwandaises en RDC. Pour traquer les FDLR, des hommes de troupes rwandais sur le sol congolais affichent le palmarès. Dans un communiqué signé de Washington le 19 avril par l'ancien directeur de cabinet du président Kagame, le docteur Théogène Rudasingwa, l'opposition rwandaise condamne la diversion persistante du général Paul Kagame pour envahir la RDC et le Burundi, écrit le potentiel. Le phare lance une alerte. Rwandais et Sud-Soudanais s'invitent dans la crise congolaise. Ce journal trouve suspect l'incursion des soldats rwandais et l'arrivée massive des réfugiés sud-soudanais dans plusieurs localités du Haut-Ouélé. Terminons par la difficile mise en place du comité préparatoire du dialogue. Pour l'observateur, Edem Kodjo découvre la classe politique congolaise. Selon ce journal, le facilitateur ne s'attendait certainement pas à un scénario où il serait dans l'impossibilité de publier la liste de membres du comité préparatoire qu'il avait annoncé pour la fin de la semaine. Africa News affiche en manchette la liste de 12 délégués de Kabila au comité préparatoire du dialogue.
Merci Alain Hurong. Un petit commentaire Jean-Pierre Kayembe. Je rappelle que vous êtes journaliste à la radio-télévision du groupe L'Avenir RTGA en sigle. Et l'actualité c'est aussi le rapport des reporters sans frontières paru mercredi dernier et qui place la RDC 152e au classement mondial de la liberté de la presse sur 180 pays.
J'ai lu ce rapport. Je crois qu'il n'est pas très conforme à la réalité sur place. Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut aujourd'hui présenter la République démocratique du Congo comme étant une affaire sur terre. Il faut reconnaître que dans ce pays, contrairement aux autres pays africains, notamment les pays voisins, le Rwanda, où l'Ouganda est bien notre pays, où la liberté de la presse n'existe quasiment pas. Aujourd'hui, le fait pour moi de voir cette multitude de chaînes de télévision, des radios, de journaux aujourd'hui, c'est déjà une expression de liberté. Et le fait pour voir moi, personnellement, dans ce studio, en train de mettre mon point de vue, avec Daniel Safou et tous les autres, tout ce que nous faisons à longueur de journée, c'est déjà une note qu'il faut apprécier. Donc, je ne suis pas totalement d'accord avec ce rapport qui est truffé de beaucoup d'incohérences. À mon avis, il va falloir que les enquêteurs de Reporters sans frontières puissent être en phase avec la réalité que de raconter des choses qui sont en total déconnexion.
Merci Daniel Safou, fondateur du bi-hebdomadaire Point Saillant, journal d'investigation et d'enquête paraissant à Kinshasa. Rapport non conforme à la réalité, la RDC n'étant pas un enfer en ce qui concerne la liberté de la presse, selon Jean-Pierre Kayembe.
Non, ce que Jean-Pierre Kayembe raconte, il n'a pas encore touché à l'expérience ou à beaucoup de choses. Moi qui vous parle, je suis un témoignage vivant.
On rappelle que vous venez de faire 8 mois de prison.
8 mois de prison, avant ça, j'ai au moins 44 arrestations. Tout ça au nom de la liberté d'expression. 44 arrestations, Jean-Pierre doit vérifier les journalistes, il ne doit pas d'emblée contredire les confrères.
Et donc vous soutenez ces rapports
Je soutiens les rapports, il n'y a pas la liberté des presse ici au Congo. Nous avons une presse des contre-rendistes, quand ils vont par exemple à la conférence des presse de la mer, mais ils exploitent ce qu'on leur dit. Nous n'avons pas une presse qui gratte et qui va plus loin. Nous n'avons pas une presse qui peut dénoncer la vente des carrés miniers sans la paix d'offres. Nous n'avons pas une presse qui peut dénoncer aujourd'hui que non, il y a détournement dans tel domaine. Nous n'avons pas une presse qui peut... On n'est pas libre. Quand vous parlez des racontes...
Donc, les journalismes d'investigation
ne peuvent pas évoluer. Ce que Jean-Pierre Kayembe dit, c'est bien bon. Il n'a jamais touché à la réalité de la presse. Nous avons une presse spéculative. Mais lorsque la presse est engagée, c'est une presse traquée.
Et cela veut dire qu'il y a des choses auxquelles on ne peut pas toucher.
On ne peut pas toucher. Lui, Jean-Pierre Kayembe, lui, il parle de la liberté d'expression. Il peut parler de Matata sans mettre les gants. Il peut parler de Kabila sans mettre les gants. Mais au lendemain, on l'arrête. Moi, on m'arrête par rapport à quoi? Pour avoir dénoncé certaines choses. On m'arrête chaque fois. Pourquoi? Parce que je suis un journaliste engagé. Les Jean-Pierre Kayembe, ce sont des journalistes tout court. Les jours, ils vont s'atteler dans l'engagement. Ils seront arrêtés. Ceux qui font le travail de manière spéculative, ce que moi j'appelle la presse contre-rendiste, ils ne sont pas traqués. Quand vous fuyez les formations, vous devenez l'ennemi, n'est-ce pas, du pouvoir en place.
Albert Omba, journaliste à Numérica Télévision, une radio-télévision qui émet à Kinshasa. Et au vu de ces rapports des Reporters sans frontières, peut-on dire que la presse est muselée ou bâillonnée en RDC?
Bon, d'une manière ou d'une autre, la presse est muselée, mais il y a une petite progression. Mais, comme ça vous vient de le dire, si vous touchez aux choses sérieuses, en tout cas vous êtes complètement traqué par tous les services, hein, les services de sécurité, les services de ceci. Donc, vous pouvez dire superficiellement les choses, mais si vous faites une bonne investigation, et avant même que vous publiez les résultats de vos investigations, vous serez traqué. Ça, c'est connu. Si vous parlez des choses qui vont dans le sens de caresser le poil de certaines personnes, tant mieux. Vous avez la vie sauve. Mais si vous donnez un avis contraire, même si vous avez des preuves, on ne vous laissera pas le mettre à la place publique. C'est ça.
Merci Jean-Pierre Kayembe. La priorité, c'est aussi cette controverse au sein de l'opposition autour de la composition du comité préparatoire du dialogue politique. Nous avons suivi l'IDPS qui exige qu'on lui attribue les 12 postes réservés à l'opposition, et une attitude que déplore certains partis de l'opposition.
Oui, l'UDPS à elle seule ne représente pas l'ensemble de l'opposition congolaise. Je suis stupéfait d'apprendre que le parti d'Étienne Tshisekedi voudrait s'arroger ou s'adjuger de tous les quotas réservés à l'opposition. C'est intolérable, c'est impossible. Aujourd'hui, l'UDPS a fait son temps. Aujourd'hui, vous avez des gens comme Justin Bitakura qui s'est battu comme un diable pour convaincre ceux qui
pouvaient l'être encore.
Vous avez de l'opposition citoyenne, justement, vous avez son collègue Steve Mikaï qui s'est battu, lui également. Et ces gens, il faut être honnête par rapport au travail qu'ils ont abattu et qu'ils méritent d'être
au sein du comité préparatoire. Et j'ai toujours pensé que, bon, de toute façon, on sait que notre opposition a toujours voulu d'une chose le matin pour se régner le soir. Il revient aux facilitateurs. Déjà, je suis en train de mettre un doute sur le travail d'Edem Kodjo qui se trouve aujourd'hui, qui a une véritable patate chaude entre ses mains. Ça va faire 2 semaines qu'il n'a pas convoqué ou nommé ses comités préparatoires. Lui-même est mis en cause, son leadership, sa capacité de convaincre les partis en présence est mise en cause. Et aujourd'hui, j'ai suivi la case qui demande d'ailleurs, qui exige sa démission, qui dépose sa démission parce qu'il n'a pas réussi la mission lui assignée par la commission de l'Union africaine.
Merci, Daniel Safou. Est-ce que vous comprenez cette position de l'IDPS au sujet de la composition du comité préparatoire du dialogue politique?
C'est une position rationnelle et c'est une position stratégique. J'aimerais rappeler, mon ami...
Rationnel, mais l'IDPS ne constitue pas l'unique partie de l'opposition.
Non, excusez-moi, il y a opposition.
Vous avez suivi Jean-Pierre Kayembe qui a évoqué la lutte que les autres ont menée, notamment Bitakuira et Steve Mikai.
Non, excusez-moi, mon frère. En fait, la vie politique est caractérisée par les rapports de force. Quelle est la force de Bitakuira? Quelle est la force de Steve Mikai? Ce sont des électrons libres. Ils ne représentent rien dans les macrocosmes politiques du Congo. Non.
Bon, ça m'engage que vous, hein.
Ça m'engage que moi, par rapport à une analyse, je suis journaliste. Dis-moi, qu'est-ce que Bitakuya représente dans l'opinion? Dis-moi, qu'est-ce que Steve Mikai représente dans l'opinion?
Et donc, vous comprenez la position de l'IDPS?
J'aimerais soulever un point important, qu'on le sache, que les pouvoirs en place fabriquent ses opposants. Je confirme, des Bitakuya, des Steve Mikai, ce sont des opposants fabriqués, achetés. Ce ne sont pas des opposants en tant que conviction.
Et vous basez sur quels éléments pour faire ce genre d'affirmation?
Je me base notamment, il y a eu pétition dont les députés ont signé pour présenter la requête, n'est-ce pas, à la Cour constitutionnelle. Bitakuira a signé. En quoi il est opposant?
Albert Omba, est-ce que vous comprenez ces débats au sein de l'opposition au sujet de la composition du comité préparatoire du dialogue politique?
Oui, bien que nous avons émis des réserves quant à la tenue de toutes ces concertations, mais comme les choses ont évolué telles qu'elles évoluent, c'est un faux débat. Un faux débat dans le sens que tout le monde va jouer son petit jeu pour donner le temps et beaucoup de griffes au pouvoir. Vous vous rendrez compte que l'IDPS, avec tout le respect qu'on doit à ces partis politiques, il ne peut pas prétendre être le chef suprême de l'opposition. Je tiens à signaler ici que l'opposition, c'est quoi? Un opposant d'abord, c'est qui par définition? Par définition, un opposant, c'est quelqu'un qui quitte le pouvoir, qui est en dehors du pouvoir, mais qui cherche à le conquérir. Voilà l'essence d'un opposant. Et un contestateur, c'est quelqu'un qui critique un pouvoir, mais qui ne cherche pas à remplacer ce pouvoir-là. Ça fait deux nuances différentes. Pour le problème de quota, il n'y a personne qui a le droit de dire que tel est opposant par rapport aux autres. Nous avons le carnet de tous les opposants. Nous
Merci
avons
Albert.
Leur évolution.
Merci.
Si nous mettons à creuser dans leur crèche, nous trouverons trop d'histoires sales qui peuvent. Le problème est simple. Si tous les opposants devaient avoir une seule doctrine, c'est-à-dire de vouloir chercher le pouvoir demain, remplacer ceux qui sont au pouvoir, les choses iront mieux.
Merci
de
m'avoir compris.
Quand on se précipite pour dire, moi je suis le major de l'opposition, moi je suis le ministre, là, ce n'est pas ça les débats, ils vont perdre. Toute la suite sera finie, on va rentrer dans les turbitudes de la conférence nationale souveraine et ça prendra l'état que ça prendra.
Merci Albert Omba. Notre premier thème de ce soir, les députés nationaux, membres de la majorité présidentielle, ont déposé lundi dernier leur pétition à la Cour constitutionnelle pour lui demander d'interpréter l'article 70 de la Constitution. Plus de 200 députés nationaux sollicitent l'interprétation des articles 70, 103 et 105 de la Constitution. Pour cela, ils ont déposé lundi dernier une pétition à la Cour constitutionnelle. Pour ces élus de la majorité présidentielle, il est temps que la Cour fixe l'opinion quant à ces dispositions constitutionnelle à la base des controverses dans la population. L'article 70 faisant actuellement objet de controverses stipule que, à la fin de son mandat, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Cependant, dans leur entendement, les présidents de la République, comme les députés nationaux, doivent rester en fonction jusqu'à l'installation de leur remplaçant élu. C'est là l'exemple du Sénat, des assemblées provinciales et certains gouverneurs. On écoute à ce sujet Koko Nyangi, secrétaire général adjoint de la majorité présidentielle, au micro de Mimi Ngumba Mulongo.
Les documents que nous venons de déposer ainsi que les annexes qui l'accompagnent, s'intitule « Requête en interprétation » de ces articles-là. Comme il y a des gens qui lisent la Constitution à tort et à travers, et comme les hauts magistrats de la Cour constitutionnelle sont payés pour nous interpréter cette Constitution, et il n'y a que eux, nous sommes allés à l'institution compétente pour qu'elle nous interprète, qu'elle fixe la population congolaise sur l'essence de ces articles de la Constitution. C'est une démarche très propre qui doit d'ailleurs intéresser tout le monde. Comme ça, on coupe court à tous les bruits. Et je crois que c'est légitime. C'est voilà pourquoi nous avons une cinquantaine de députés de l'opposition qui ont signé cette requête, pour votre information. Et donc, nous ne sommes pas allés poser la question aux gens du marché. On n'est pas allé poser la question aux camionneurs. Nous ne sommes pas allés poser des questions aux creuseurs. Nous sommes allés voir l'institution qualifiée pour interpréter un article ou deux de la Constitution de la République.
Jean-Pierre Kayembe, journaliste à la radio-télévision du groupe L'Avenir STGA, comment vous analysez cette démarche de député de la majorité présidentielle?
D'abord, sur le plan de la forme, la démarche est irréprochable. Irréprochable parce que quand vous lisez l'article 161 de la Constitution, elle limite nominativement les compétences de ceux ou des personnalités morales qui peuvent, d'une façon ou d'une autre, surtout en ce qui concerne l'interprétation de la Constitution, des gens qui peuvent saisir la Cour constitutionnelle.
Et donc, sur le plan de la forme, la démarche est légale.
Sur le plan de la forme, la démarche est légale, irréprochable. Et puis, il est demandé qu'au moins un dixième des l'une des deux chambres saisissent la Cour constitutionnelle au-delà du président de la République, le Premier ministre, le président de chambre parlementaire.
Et par rapport au fond.
Alors, j'ai aimé le fait qu'au moins une cinquantaine de députés, 50 opposants, ont signé. Parce qu'ici, il n'est pas seulement question de l'avenir ou la survie de l'institution président de la République. Je ne voudrais pas que l'on parle de l'individu Joseph Kabila ou de la personne de Joseph Kabila. Je veux que l'on parle de l'institution président de la République. Ici, il est aussi question de la fin de mandat des députés et des sénateurs. Là, je fais allusion à l'article 103 et 105. Aujourd'hui, dans les contextes sous examen, il peut arriver que les élections législatives ne se tiennent pas. Qu'est-ce qu'on va faire? Doit-on arrêter les deux chambres parce qu'on n'a pas organisé les élections, ou il faudrait que par principe de continuité de l'administration, ou parce que comme l'alinéa 2 de l'article 70 d'ailleurs de la Constitution dit que le chef de l'État en fonction à la fin de son mandat, il reste jusqu'à ce qu'il y aura...
Et donc on utilise la jurisprudence qu'on a utilisée en 2011 avec les sénateurs.
Mais aujourd'hui c'est une bonne jurisprudence, d'ailleurs c'est légal parce que la Constitution l'est dit, principe de continuité. Alors je voudrais parler du fond. Au niveau du fond, je voudrais relever ici que cette démarche n'a pas d'effet suspensif parce que je vois des gens vouloir faire un raccordement frauduleux avec le dialogue qui profile à l'horizon. Non, le dialogue peut décider ce qu'il va décider, mais la seule institution habilitée à interpréter les articles de la Constitution, c'est la Cour constitutionnelle. Et puis vous avez assisté au débat. Aujourd'hui, le débat, dans l'opinion, c'est la fin du mandat de Joseph Kabila après le 19 décembre. Et il vaut mieux que les hauts magistrats qui sont payés, Koko Niang l'a dit, qui sont payés pour ce travail, qu'ils nous interprètent, qu'ils nous disent ce que la Constitution, ce que les constituants a voulu dire.
Daniel Sassou, fondateur du bi-hebdomadaire Point Saillant, journal d'investigation et d'enquête paraissant à Kinshasa, une démarche légale. Est-ce que vous comprenez cette démarche des députés de la majorité présidentielle qui disent vouloir l'interprétation exacte de cet article 70, vu la controverse, n'est-ce pas, autour de la fin du mandat chef de l'État?
Je ne verrai pas tomber dans le juridisme. Parce que quand vous prenez l'article 70, même celui-là qui n'a pas fait les droits peut facilement interpréter cela. N'importe qui peut réaliser une approche.
Donc l'article est clairement.
C'est clair,
formulé.
Mon frère, c'est clair. Mais le nom dit c'est quoi? Le nom dit c'est Kabila. Comment maintenir Kabila au pouvoir? Comment maintenir Kabila au-delà, n'est-ce pas, du délai constitutionnel? C'est ça le non-dit. La démarche qui est légale, comme le dit mon confrère, c'est pas ce langage de la politicien. Au niveau de la forme, c'est une démarche légale. Au niveau du fond, ça c'est tomber dans les juridismes, dans l'irrationalité politique.
Et la rationalité serait quoi?
La rationalité serait quoi? Nous avons un dialogue. Et ce dialogue-là, c'est pour que nous puissions débattre les problèmes saillants qui nous préoccupent au pays.
Parmi lesquels celui-là?
Parmi lesquels celui-là? Parmi lesquels les élections? Mais pendant que
il y a des contacts devant permettre les esprits, afin que nous puissions nous retrouver autour, n'est-ce pas, du dialogue, qui est la palabre africaine, vous initiez une requête en interprétation à la Cour constitutionnelle. Quelle est l'intentionnalité de la majorité? 1. La majorité ne croit plus au dialogue. Quelle est l'intentionnalité de la majorité? 2. Maintenir Kabila au pouvoir, au-delà, n'est-ce pas, de son mandat constitutionnel. Vous comprenez? C'est ça l'intentionnalité. Moi, je ne suis pas dans le juridisme. Je suis au niveau de l'intentionnalité, au niveau du goût du pouvoir. Non! Le peuple a atteint un niveau élevé. Faites une approche sociologique de la population. Ce n'est pas le peuple qu'on a connu il y a 5 ans. Aujourd'hui, nous avons un peuple en alerte. Voilà.
Merci. Aloué Omba, journaliste à Numérica TV, une radio-télévision qui émet à Kinshasa. Il y a ceux qui estiment, comme Daniel Sarfou, que l'article 70, deuxième alinéa, est tellement clair qu'elle ne requiert pas, n'est-ce pas, l'interprétation de la Cour constitutionnelle. Est-ce que vous êtes de cet avis?
J'espère que parmi les députés qui sont encore à l'Assemblée nationale ou les sénateurs, beaucoup d'entre eux ont contribué à l'élaboration de la Constitution actuelle. Ils comprennent mieux. Mais nous concédons à nos frères députés de la majorité le devoir d'aller déposer leurs documents auprès de la Cour constitutionnelle. Mais ce qu'ils doivent savoir est que à la fin du premier mandat du président de la République, on a eu une révision constitutionnelle qui a remis le mandat, du moins l'élection présidentielle à un seul tour. Les conséquences, vous les connaissez aujourd'hui. Un chef de l'État qui est élu au premier tour et qui n'atteint pas la majorité absolue de 50% plus une voix perd complètement sa
légitimité.
Il a la légalité. Vous savez que il a l'électorat national. Et vous élisez un chef de l'État au premier tour, à un seul tour. Quelle est la conséquence? Il n'y a personne qui a eu plus de 50%.
C'est 42%.
Vous savez ce qu'il y a si l'opposition, par l'entremise de l'IDPS aujourd'hui, réclame une certaine portion du pouvoir suite aux élections de 2011? C'est à cause de ça. C'est une erreur qui a été commise par nos frères de la majorité. Ils n'ont pas permis au chef de l'État d'avoir une majorité absolue. Maintenant, aujourd'hui, nous allons vers la fin du mandat du chef de l'État. On va interpréter les articles. Mais à la fin du mandat du chef de l'État, quelles sont les conséquences qu'on va tirer?
Albert Omba,
le pouvoir devait organiser les élections. Comparaison n'est pas raison. Les sénateurs sont encore...
Est-ce que vous partagez l'avis, Albert Omba?
À qui la faute?
Albert Omba,
c'est l'histoire qui va raconter, que nous allons raconter à nos petits-fils, qui a eu à un moment donné des députés ou des sénateurs qui n'ont pas voulu quitter le mandat. Et ils ont fait 2 mandats. Et ce sont nos petits-fils qui vont nous juger. Voilà à peu près ce que j'ai à dire pour ça.
Alors, est-ce que vous partagez l'avis de ceux qui pensent que l'article 70, deuxième alinéa, est tellement clair qu'on n'a pas besoin de consulter la Cour constitutionnelle pour l'interpréter?
Il est clair. On n'a pas besoin de consulter la Cour constitutionnelle. C'est un article qui a été clair. Nouveau président élu. Donc, tout ce qu'on doit faire, c'est de préparer les élections et aboutir à ces élections. Et puis, la suite va venir. Il n'y a pas à aller discuter. Je ne sais pas ce qu'est le juridisme, comme le confrère a dit. Nous ne voulons pas du juridisme compliqué. Les choses sont tellement claires. Il faut qu'on avance pour que ce pays soit calme. C'est tout ce qu'on veut.
Merci Jean-Pierre Kayembe. De leur côté, les députés de l'opposition viennent aussi d'initier une pétition pour, cette fois-là, soutenir l'article 110 de la Constitution par d'autres arguments. Et ils sont convaincus que la pensée de la majorité est immorale en ce qui concerne les fonds de la question.
Non, c'est parti pour une bonne bataille judiciaire. Je valide. Requête contre requête. C'est une bonne chose.
Non, j'aimerais préciser.
Il revient.
S'il vous plaît, Daniel. Parce que l'opposition n'a jamais présenté une requête à la Cour constitutionnelle. C'était juste une spéculation.
Il y a une requête.
Il y a une requête en chantier.
Daniel Sarfou, s'il vous plaît.
Non. D'après, nous avons pour quelque chose qui n'existe.
S'il vous plaît, Daniel Sarfou. D'après mes informations, il y a une requête.
Monsieur Jean-Pierre Kayembe.
Oui.
Une précision.
Oui.
Nous avons reçu le député de l'opposition, Lubaya, qui a confirmé, n'est-ce pas, qu'ils sont en train de collecter les signatures pour déposer la pétition à la Cour constitutionnelle. Donc, c'est des faits vérifiables.
Ils n'ont pas déposé.
Jean-Pierre Kayembe, ils n'ont pas encore déposé. Mais la démarche est en cours. L'initiative a été prise. Oui. C'est tout à fait normal qu'elle puisse analyser cette initiative.
D'accord, je précise que la requête, sauf imprévu, sera déposée ce samedi. Alors, moi, j'adhère, je soutiens. Je trouve dans la démarche de l'opposant qu'ils ont une confiance. Ils font confiance aux institutions de notre pays. Ils ont foi à notre justice et il revient aux hauts magistrats qui sont les seuls habilités pour l'instant à interpréter, donner le sens du constituant, qu'ils nous disent si après, à la fin de son mandat, après le 19 décembre, si jamais les élections ne sont pas tenues, qu'il y aura vacances ou pas. Parce que c'est ça le problème. Dans l'opinion, on pense qu'il y aura vacances au sommet de l'État. Mais enfin, quand vous lisez l'article 70 sur l'année 2, est assez clair comme de l'eau des roches que à la fin des
sommets. C'est clair pourquoi on va demander la proportionnelle des deux côtés.
Il y a une interprétation erronée, un tout petit peu erronée ou partielle dans le chef de nos amis, enfin de l'opposition. Parce que moi ici, je parle en tant que journaliste et non en tant que politique. Donc il y en a qui pensent aujourd'hui que si les élections ne sont pas organisées le 19 décembre, il y a vacances au sommet de l'État.
Jean-Pierre Kayembe, que répondez-vous à Daniel Staff qui estime que la démarche telle qu'elle est menée par la majorité a comme objectif, n'est-ce pas, de permettre au chef de l'État de s'éterniser au pouvoir et que ça vide les dialogues politiques de toute sa substance?
D'abord, je ne voudrais pas m'inscrire dans le schéma des procès d'intention. Moi, je trouve, dans la démarche des pétitionnaires ou des requérants, l'idée de lever tout doute sur les interprétations différentes et un peu erronées de dispositions constitutionnelles. J'ai relevé tantôt que cette démarche n'a pas d'effet, tout comme le dialogue n'a pas d'effet suspensif.
Et donc, ce sont des démarches pas contradictoires, mais des démarches qui se complètent.
Le dialogue de sa substance, non. Le dialogue est là. Il est vrai qu'il va tabler sur des questions d'ordre électoral. Mais ça n'empêche pas.
Donc la démarche pour la tenue du dialogue et la démarche pour, n'est-ce pas, interpréter l'article 70 à la Cour constitutionnelle, ce sont des démarches qui se complètent.
Moi, je voudrais qu'il se complète parce que je voudrais qu'en étant au dialogue, que l'on ait tous les esprits fixés sur l'après-2016, juridiquement.
Mais est-ce que cette démarche de la majorité présidentielle ne va pas davantage creuser les fossés qui existent entre ceux qui soutiennent le dialogue et ceux-là qui sont jusque-là réticents?
Bien au contraire, elle devait encourager ceux qui sont réticents. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une sorte de la peur de l'inconnu.
Merci.
On ne sait pas ce qui viendrait ou ce qui arriverait après le 19 décembre. Et je voudrais que quand tous auront été fixés sur ce que pense le constituant par rapport à ces articles,
merci,
donc nous aurons un dialogue avec les esprits apaisés.
Daniel Staffou, comment vous entrevoyez la suite au cas où la Cour constitutionnelle répondait favorablement, n'est-ce pas, à cette demande, n'est-ce pas, de la majorité présidentielle?
Les lions tranquilles va rougir ses yeux. Nous tomberons de la théorie de Karl Marx, l'eschatologie du grand soir. C'est la phase finale de l'entreprise de Karl Marx. C'est-à-dire quoi?
Qu'est-ce qu'on veut dire, voilà?
L'eschatologie du grand soir, c'est la grande révolution, où le peuple s'élève pour réclamer ses droits. Et d'ailleurs, je suis convaincu, s'il y a la résolution 2277, c'est juste pour éviter l'eschatologie du grand soir, la grande révolution où le peuple prend les choses en main.
Merci.
C'est ce que nous évitons. Si la majorité ne sait pas lire les signes du temps, ne sait pas comprendre que si le plan sociologique, le peuple a atteint un degré culminant et qu'en tout moment, je vous dis aujourd'hui, et la Cour, et les députés qui sont allés en rectête, n'est-ce pas, d'interprétation, face à la population, ils représentent quoi? Rien. C'est à la Cour de tirer les conséquences.
Merci.
Donc la Cour doit tenir compte de certaines pesanteurs, de certaines réalités. Ces peuples-là affamés, sans courant, sans l'eau, sans route, ces peuples-là qui vit la corruption vis-à-vis de lui.
Nous avons compris, monsieur Daniel Staffou, Albert Omba, est-ce que la Cour constitutionnelle peut rejeter cette requête de la majorité présidentielle? Est-ce que ce scénario est possible?
Oui, c'est possible. C'est un test qu'on vient de faire face à la Cour constitutionnelle. Ils vont démontrer de quoi ils sont capables, leur indépendance et leur maturité. Vous vous souviendrez que nous avons encore un goût amer de l'interprétation qui a été faite à ce qui concerne l'élection du gouverneur, commissaires spéciaux et ainsi de suite. Vous avez vu que la Cour qui a interprété ce document a laissé une certaine ouverture qui a permis au pouvoir d'aligner des commissaires spéciaux, et heureusement qu'ils viennent d'être rectifiés, on vient de les nommer encore par élection. Donc on espère que la Cour, elle est indépendante, elle prend ses responsabilités, elle est responsable devant la nation congolaise et devant l'histoire qui va la juger.
Merci. Notre deuxième thème de ce soir, évaluation de l'action du gouvernement. Le Premier ministre Matata Ponyo a affirmé mercredi dernier devant les députés nationaux que des progrès considérables ont été accomplis durant les quatre dernières années, et cela dans plusieurs domaines sur toute l'étendue du pays. Cette affirmation de Matata Ponyo fait suite à la question orale lui adressée ce même mercredi par le député national Mbindule Mitono. Concernant notamment le social, Matata a affirmé que cette rubrique a bénéficié d'un montant de plus de 4 000 milliards de francs congolais, soit près de 20% du budget national. À en croire le Premier ministre, les actions y afférentes sont visibles sur le terrain. Un extrait de cette affirmation a été sélectionné par Mimi Ngumba Mulongo.
Baisse considérable de l'incidence de la pauvreté, augmentation du pouvoir d'achat, bien que la création des emplois ait resté relativement insuffisante. Nous avons aussi permis, dans le cadre de cet objectif, de réaliser un accroissement impressionnant des taux de scolarisation, d'alphabétisation et d'achèvement. Mais il reste à améliorer la qualité de notre enseignement. Les taux bruts de scolarisation est passé, tenez bien, de 90,8% en 2010 à 107% en 2014. Nous avons aussi noté une baisse de la tendance de l'infection VIH et SIDA et de la prévalence de certaines maladies au cours de notre mandature. Nous avons aussi noté une amélioration du cadre de vie des ménages en matière de dessertes en électricité ainsi que d'eau potable, à l'assainissement du logement, mais aussi un progrès dans ces domaines.
Daniel Safou, fondateur du bi-hebdomadaire Point Saillant, journal d'investigation Point Saillant Plus. Merci pour la précision. Journal d'investigation et d'enquête paraissant à Kinshasa. Votre réaction par rapport à cette intervention du Premier ministre Matata Ponyo, et qui estime que des progrès considérables ont été accomplis à ce qui concerne l'action de son gouvernement durant les quatre dernières années.
Le Premier ministre a tenté des mentis, des mensonges. Quand il parle de l'électricité, 80% de la population n'ont pas accès à l'électricité. Il n'y a que 9% qui bénéficient de l'électricité. Nous prenons l'eau potable. 20% seulement qui bénéficient de l'eau potable. C'est-à-dire l'ensemble des Congolais puissent de l'eau dans la rivière. Vous comprenez? On ne dirige pas les pays avec les mensonges. S'il avait encore accepté ce chèque, on serait encore très content. Je vous prends un cas, des cas saillants. Il parle, n'est-ce pas, de la scolarisation. Là, c'est la quantité. Où est la qualité aujourd'hui? Notre enseignement s'est détruit chaque jour.
Quelle est la qualité? Il a quand même reconnu qu'il reste à améliorer la qualité de l'enseignement au Congo. Il a reconnu cela.
Bon, là, c'est le langage. Il doit reconnaître où nous avons des enseignants non mécanisés. Quel est le salaire de l'enseignant aujourd'hui? S'il faut parler de la discrimination salariale chez les enseignants, l'enseignant congolais représente quoi aujourd'hui? Voilà un élément. Nos députés n'ont pas fait allusion à cela. Il y a la loi sur ARM, c'est-à-dire l'autorité
de régulation des
marchés publics. Pendant que cette loi-là existe, la BCECO ne peut plus exister. Mais les grands projets, n'est-ce pas, sont exécutés là-bas, au niveau de la BCECO. Mais pendant qu'il y a une loi et qui est claire là-dessus, une fois cette loi est mise en place, BCECO tombe. Mais le Premier ministre continue à garder BCECO. On vit aux yeux de tout le monde. Ça, c'est une grande escroquerie. Je le dis encore. Aujourd'hui, le Premier ministre a fait allusion, n'est-ce pas, à la crise qui est la crise mondiale. Ça, c'est du mensonge. Regardez un peu là. Notre Premier ministre n'a pas dit le divorce qu'il y a entre FMI et la Banque mondiale. Nous avons réussi à l'époque de Mozitou. La crise mondiale était là. Mais parce qu'il y avait un programme, ce programme était soutenu par des appuis budgétaires, notamment de la Banque mondiale et de FMI. On n'a pas senti cette crise. Les dollars ne nous ont pas touchés. Mais aujourd'hui, notre Premier ministre, pour n'avoir pas été transparent,
par rapport, n'est-ce pas, au programme de FMI et Banque mondiale. On a coupé des liens. Aujourd'hui, nous subissons. J'allais dire quelque chose de très important. Le Premier ministre a exécuté certains projets hors du budget.
Jean-Pierre Kaïmbé,
les FMI et la Banque mondiale ne viennent plus en appui budgétaire.
Jean-Pierre Kaïmbé, journaliste à la radio-télévision du groupe L'Avenir RTGA. Et que répondez-vous à Daniel Safou qui pense que le Premier ministre, lui, il a utilisé même les termes mentir, le Premier ministre.
Il a menti.
Il y en a qui disent que les affirmations du Premier ministre ne reflètent pas la réalité quand on évoque notamment les problèmes du courant, la dépréciation du franc congolais qui actuellement connaît des problèmes très sérieux, le franc congolais qui se déprécie par rapport au dollar américain, un fait réel sur le terrain et qui tend même à contredire tous ces discours développés autour de la maîtrise du cadre macroéconomique.
D'abord, la position de Daniel ne me surprend pas, je connais qu'il a toujours vu tout noir.
Non, c'est contrairement. Nous parlons du Premier ministre, parlons du courant.
S'il vous plaît, Daniel Safou, s'il vous plaît. Laissez Javier parler.
Je voudrais que le confrère à gauche soit honnête aujourd'hui. Soit honnête aujourd'hui pour reconnaître que Matata a beaucoup fait, contrairement à son prédécesseur. Aujourd'hui, nous avons d'abord la première action. Quand il accède à la primature, il a réussi à bancariser. Bancariser le salaire.
Non, s'il vous plaît, Daniel Safou, vous avez parlé, on vous a laissé parler.
Oui, soyez
laissez aussi Jean-Pierre Kaïmbé parler.
Augustin, Daniel Safou, s'il vous plaît. Sans le vanter, parce que personnellement, je ne l'ai jamais rencontré.
Mais vous avez évoqué la bancarisation.
C'est la bancarisation des salaires des fonctionnaires.
Oui.
Je note de son action qui est sous Matata Pogno. On a réussi aujourd'hui à construire presque 1000 écoles. 1000 écoles.
C'est faux, c'est que
Matata Pogno.
S'il vous plaît, Daniel Safou.
Non,
Daniel Safou.
Écoutez,
on ne comprend pas.
Daniel Safou. J'ai dit presque 1000 écoles.
Vous laissez Jean-Pierre Kaïmbé parler. On vous laisse parler, s'il vous plaît.
La millième école devait sortir des terres cette année. Donc j'ai dit presque 1000 écoles par mille. Matata.
Et les faits sont là, et puis il y a des cérémonies qui sont organisées pour.
Mais notamment, à moins que vous soyez sur une autre planète que la nôtre. Matata aujourd'hui.
À part les 1000 écoles.
Sous son actif, nous mettons la construction et la réhabilitation d'au moins 131 hôpitaux généraux de référence. Ça, c'est très important. Dans mon village, un hôpital général de référence a été construit. Et un peu partout, des hôpitaux ont été réhabilités. Et ça, il faut saluer. Sous Matata, nous avons presque 2300 km de routes aujourd'hui qui ont été asphaltées, qui sont aujourd'hui praticables. Il faut saluer. Sous Matata, nous avons eu pendant presque 2-3 ans. Le taux d'inflation était à 0,2%. Aujourd'hui, on parle de la croissance. Mais mon frère Daniel, qu'il n'oublie pas qu'aujourd'hui, cette crise qui frappe tous les pays, qui frappe la planète, aujourd'hui, la monarchie du Golfe est en train d'emprunter de l'argent au niveau du FMI, au niveau de la Chine. Donc cette crise a terriblement secoué tous les pays. La monarchie du Golfe emprunte aujourd'hui de l'argent. C'est normal que cette crise se répercute. Matata reconnaît la dépréciation du franc congolais. Il reconnaît les problèmes. Il reconnaît que des mesures sont en train d'être prises. Mais je ne voudrais pas que l'on puisse tout voir. Penser qu'ici c'était l'enfer. Contrairement à Adolphe Mouzou, que je note, contrairement entre 2006 et 2011, 2012 et 2016, me paraît beaucoup plus intéressant, beaucoup plus mielleux que les années précédentes.
Merci Albert Omba, journaliste à Tropicana TV, une radio-télévision qui émet à Kinshasa. Le Premier ministre a évoqué la baisse considérable de la pauvreté et de l'augmentation du pouvoir d'achat. Et Albert Omba, un fonctionnaire aujourd'hui par exemple, touche 90 000 francs congolais, ce qui représentait vers les années 2010 environ 100 dollars. Aujourd'hui, dans notre 1100 congolais ne représente plus 100 dollars. Est-ce que, dans ces cas, on peut parler de l'augmentation du pouvoir d'achat?
Non, on ne peut pas parler d'augmentation du pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, d'ailleurs, est très déprécié par rapport à la situation antérieure. Vous conviendrez, quand vous venez de le dire, que le salaire d'un fonctionnaire n'a pas augmenté même d'une iota. Laurent Désiré Kabila a laissé les fonctionnaires avec 100 dollars comme salaire. Aujourd'hui, il a moins de 100 dollars, c'est-à-dire 90 000.
Ce qui fait que de ce côté-là, il n'y a rien qui a été fait. Et vous verrez que quand on prend les sachets de la ménagère, qui doit comporter pas les éléments suivants. Un ménage a droit à un poulet qui coûte à peu près 5 000. Un ménage a droit à 3 ou 4 sacombis de foufou ou 2 sacombis de maïs, pour ne pas parler du riz ou ce qu'il y a à manger. Il a besoin de tomates. Il a besoin de ce qui fait que par jour, un ménage a au moins, le plus minimum, je pense qu'il doit avoir, c'est au moins 12 à 15 000 francs pour dire qu'elle vit dans la normale. Et si on multiplie 15 000 fois 30 jours, ça vous donne combien? 450 $ minimum. Et il n'y a personne qui a 400 $. Tous les restes sont des primes. Ça veut dire que de ce côté-là, c'est l'échec. Mais il y a des actions qui ont été menées. Je prends des actions comme au niveau du transport. Il y a une augmentation sensible de moyens de transport urbain. Par exemple, dans la ville de Kinshasa, on a vu l'esprit de vie, on a vu Transco. Au niveau aérien, une augmentation du nombre d'aéronefs qui a permis de réduire de moitié le coût du transport. Merci. Au niveau fluvial aussi, la même chose. De ce côté-là, il n'y a pas le maintien de l'inflation qui était contenue. Malheureusement,
pendant plusieurs années,
le point vient de tomber avec l'hyperinflation qu'on vient d'avoir dernièrement. Pour ce qui est des routes, oui, il y a beaucoup de routes qui ont été construites, mais ces routes commencent à se détériorer parce qu'il n'y a pas de maintenance.
Merci Albert Romba. Daniel Safou, il y a des députés qui ont demandé à leurs collègues de pouvoir évaluer, n'est-ce pas, les gouvernements en fonction des efforts fournis. C'est vrai que vous avez dit que ce que Matata disait n'était pas vrai, mais il y a des efforts qui sont fournis, l'évidence est là. Et vous avez suivi Jean-Pierre Kayembe, vous avez suivi Albert Romba qui évoque notamment les efforts qui ont été fournis dans les secteurs des transports et voies de communication, les efforts qui sont fournis dans la réhabilitation de la voirie urbaine pour ne parler que de cela.
Oui, je regrette si les journalistes doivent réfléchir en subjectivisme. C'était dangereux. Épistémologiquement parlant, ce sont des erreurs graves.
Non, pour vous, rien n'a été fait.
Regardez, mon frère, vous parlez du transport. Allez au niveau du transport. C'est à Kinshasa. Quand on doit parler du transport, c'est tout le Congo. Tous les Congos, c'est pas seulement Kinshasa. Et quand même Kinshasa, si on doit gratter Transco, il y a du désordre là-bas. Celui qui gère Transco, il vient de la primature. Il y a du désordre. Les Français qui étaient là, il a quitté.
Mais
il
Transco, vous pourquoi Transco il a été payé, n'est-ce pas?
Pardon?
Transco a été créé.
Oui, Transco a été créé.
Congo Airways a été créé.
Il y a
routes qui ont été réhabilitées.
Laissez-moi parler, mon frère. Paix à son âme, Makoko Moucheni, grand journaliste, il disait, hein, un city train pour 30 millions d'habitants. C'est comme si aujourd'hui, hein, 100 bis pour 70 millions d'habitants. Moi, je crois que s'il faut évaluer les choses, il y a des choses qui n'ont pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché? C'est là où je vais citer. Il y a une seule chose où ma tête a échoué diablement, la transparence. S'il y avait transparence, on ne serait pas arrivé où nous sommes. C'est-à-dire quoi? On bénéficierait, n'est-ce pas, des appuis budgétaires. Merci. Aujourd'hui, on n'a plus moyen de bénéficier des appuis budgétaires parce qu'il n'y a pas eu transparence.
Jean-Pierre Kayembe, votre conclusion.
J'ai vu comment le confrère a souffert pour répondre à votre question si Transco a été créé, oui ou non.
Je vois comment il est défendable.
Je vois comment il
est. Je ne sais pas si tu es de Maniema.
Aujourd'hui, c'est Jean-Pierre Kayembe qui parle.
Aujourd'hui, je ne suis pas du Maniema. Je suis du centre du pays. Je suis du centre, je suis du Kasaï central. Aujourd'hui, Transco a soulagé pas mal de gens. Des milliers de Kinois. Mais attendez. On commence toujours par quelque part. Il y a quelques années, on n'avait pas des moyens de transport en commun pour l'État. Il n'y en avait pas. Transco, pouvez-vous imaginer combien de gens Transco a soulagé aujourd'hui? Avec esprit de vie. Aujourd'hui, CAA, permettez-moi, avait le monopole dans les airs aujourd'hui. Congo Airways vient faire le contrepoids. C'est très important. ITB Kokolo n'en a pas parlé. Le Bungu,
dans
peu de temps. Il faut reconnaître. Il faut être honnête. Daniel Safou, je vous demande de reconnaître ce qui est fait.
Merci. C'est la fin de cette émission. Merci à André Mungu qui était à la technique. Merci à Alain Hirung qui a coordonné et réalisé cette émission sous la supervision de Martin Sebou Djangoué. À la présentation Guy Maté. Merci et bon week-end sur Radio Capitole.